On a lu les versets, les chapitres 22 à 23 pendant, avant le temps de prière. Puis bon, il y a le 24 qu'on n'a pas lu, c'est la troisième fois qu'il bénissait le peuple de Dieu au lieu de le maudire. Mais juste, je veux qu'on lise le verset 1. Nombre 25, 1. Et on apprend plus tard le détail ce qui est arrivé, puis c'est même, on apprend dans le Nouveau Testament ce qu'il y en est. Mais regardez ce que ça nous dit. Après toutes ces bénédictions, après toutes ces tentatives de maudire le peuple, d'essayer d'avoir le dessus de cette façon-là, puis le prophète qui bénissait, bénissait. Regardez ce qui arrive au chapitre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Comme c'est triste, et on va voir pourquoi, mais avant j'aimerais prier. On te remercie, Seigneur, que nous avons dans les mains ta parole, qui est la vérité. Merci que toi-même, tu es la vérité. Il n'y a aucun de mensonge en toi. On te remercie qu'on peut te faire une totale confiance. Seigneur, on ne veut certainement pas s'appuyer sur notre propre sagesse. C'est pour ça qu'on vient ici, Seigneur. On veut t'enseigner de toi. On veut aussi s'encourager les uns les autres à l'amour, aux bonnes œuvres, à marcher dans tes voies. Seigneur, on regarde tous à toi maintenant, Seigneur. Parce que tu es notre enseignant, tu es notre vie, tu es la victoire de nos vies. On veut, Seigneur, se l'approprier. On vient ici par la foi, on s'approche maintenant de toi, Seigneur, en s'attendant à la rémunération. Tu rémunères ceux qui te cherchent. On vient te chercher en s'attendant, Seigneur, qu'on va te trouver pour tous les besoins qu'on peut avoir dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci que tu es suffisant pour toutes ces choses. Merci, Seigneur, que c'est toi le vrai enseignant. Esprit du Dieu vivant, fais ton œuvre comme juste toi peux la faire. On te le demande au nom de Jésus. Amen. L'histoire, bon, ça serait long de tout résumer l'histoire, mais on voit ici ce qui est arrivé dans le fond, c'est que, oui, les tentatives de maudire le peuple de Dieu n'ont pas réussi, mais on apprend dans la suite des Écritures que Balaam a donné à Balak l'astuce pour que le peuple pêche. Envoie les femmes de ton peuple pour qu'ils séduisent les hommes, puis comme ça, le faire pécher et la colère de l'Éternel va s'enflammer contre eux. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, cette histoire de Balaam est très révélatrice de la nature corrompue et combien pernicieuse de ce que la Bible appelle la voix de Balaam et même la doctrine de Balaam. Ce qui, dans 2 Pierre et la voix de Balaam, devient dans Apocalypse avec l'Église... Pergame devient la doctrine de Balaam. Je vous lis les deux références. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. On apprend ça dans 2 Pierre au chapitre 2. Donc la corruption, l'appât du gain, comme on s'est sorti dans la première, il a flirté avec la tentation. Et on lit dans Apocalypse chapitre 2 verset 14 « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine. » Donc ce qui était une voix a été élevée au niveau de doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Donc on apprend qu'est-ce qu'il y en est avec les versets que je viens de vous lire. Et donc, ça réfère ici à des personnes qui se disent de Dieu, mais qui égarent le peuple de Dieu. Et c'est à ça que ça réfère quand on réfère à Balaam dans le Nouveau Testament. Et ce prophète, on l'a vu hein, dans ce qu'on a lu, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose d'authentique. Il y avait vraiment, tu sais, Dieu lui parlait. Il cherchait l'approbation de l'Éternel. Puis même, on voit que Dieu l'a accompagné, s'est révélé à lui. Et il a vraiment voulu dire ce que Dieu disait, n'est-ce pas? Il dit, je vais juste, OK. Mais tout cela, ça a valu à rien parce qu'il a voulu le salaire, l'honneur qui vient avec le péché et de faire tomber le peuple de Dieu. Il a accepté de faire du mal au peuple de celui qui voulait bénir son peuple. Celui qui a dit, puis là, de la bouche même du prophète, On a lu dans 23-21 que Dieu disait d'Israël qu'il était sans iniquité. Et évidemment, on comprend que c'est la justice imputée. Parce que quand on lit l'histoire, on dit comment ça se peut que Dieu voit ça dans Israël. Ben on sait que c'était à cause de la promesse de Christ, la rédemption, c'est tout relié à Jésus-Christ. Mais même que Dieu dit qu'il n'était pas irrité contre eux, qu'il le trouvait beau. OK? Donc, toutes que des paroles qui sont dites par le prophète à l'endroit d'Israël. Et quand on y pense, c'est là une merveilleuse réalité de l'héritage de Jésus-Christ, dont Israël jouissait déjà à l'époque. Parce que, c'était, comme je vous dis, c'était impossible qu'il y ait quelque chose de mérité de par ce peuple qui était au courant, qui dans le livre des Nombres, c'est incroyable, c'est une chose après l'autre, rébellion, puis... De telles paroles ne s'expliquent que par l'œuvre de Christ. Dieu les voyait à travers les promesses de son Fils, du Rédempteur, du Messie. Et je crois que c'est intentionnel de la part du Saint-Esprit qui, on sait, hein, a inspiré. La toute Écriture est inspirée de Dieu. Ce qu'on a lu, c'est pas la parole des hommes. C'est écrit par des hommes, mais c'est inspiré de Dieu. Et tout ça a été voulu par le Saint-Esprit pour nous pointer à Christ, parce qu'on dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais justement, oui, ça ne marche pas humainement. Comment ça que le prophète parle si bien d'un peuple si rebelle? Ben, c'est à cause de Christ, justement. C'est ça que le Saint-Esprit nous pointe dans ce récit. Et c'est comme ça dans tout l'Ancien Testament. Qui, Jésus lui-même a dit, les Écritures, puis autant que Jésus le disait, c'était l'Ancien Testament, et rend témoignage de moi. On comprend ici que Balaam a méprisé cet héritage auquel, par la grâce de Dieu, lui qui était un païen, qui probablement est un converti prosélyte, et donc il pouvait même jouir de cela, parce qu'il avait accès à l'Éternel. Dieu s'adressait à lui, il était connu pour être un prophète de l'Éternel. C'est pour ça que je crois que cet homme devient le type du prophète corrompu dans le Nouveau Testament. Du prophète, mais corrompu. Il est le type de l'ouvrier qui a une certaine légitimité auprès de Dieu, que Dieu utilise, mais qui, pour le salaire du péché, de sa propre convoitise, n'hésite pas à corrompre le peuple de Dieu. Parce qu'il recherchait l'héritage qui est ici-bas. Et il a méprisé, du coup, l'héritage qui vient de Dieu. C'était ça le problème de Balaam. Il a pris le salaire des choses ici-bas. Il n'était pas comme Moïse qui a méprisé les richesses d'Égypte parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Il avait les yeux sur l'immédiat, l'héritage qu'il pouvait avoir par ce roi Balak qui avait promis mer et monde. Et je crois que ça nous donne une explication spirituelle de ce que nous voyons arriver en ce moment. Dieu révèle beaucoup de choses depuis 2020, 2021, dans son Église. Parce qu'il y a un refus généralisé par le peuple de Dieu et spécialement les leaders du peuple de Dieu de porter l'opprobre de Christ et de souffrir avec son peuple. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre les richesses d'ici-bas. On n'a pas les yeux sur la rémunération. Le jugement commence par la maison de Dieu. Regardez la chrétienté en général, n'est-ce pas ce qui... C'est incroyable! Tout ça arrive... Alors que Dieu révèle l'état réel des choses. Pourquoi? Pour nous amener tout le monde à Christ. Si Dieu ne nous a pas jugés puis condamnés, c'est parce qu'il voulait nous amener à son Fils bien-aimé, à redécouvrir la vie qui est en lui. Et si on voit quelque chose qui est bon ici, c'est parce que c'est Dieu qui le fait puis qui nous ramène à l'essentiel. Sinon, on serait détruits. On n'est pas mieux que personne, autrement dit. Mais tout ça, ça me ramène à... Bon, c'est quoi le thème d'octobre? C'est que Dieu nous donne un esprit de révélation. Et on a considéré notre héritage en Jésus-Christ, hein, que Dieu nous révèle quelle est la grandeur de cet héritage. On a vu ça avec la vie, la famille, l'Église, la semaine dernière, les nations. Et je continue un peu avec l'idée des nations parce qu'il y a clairement ici un aspect missionnaire au récit qu'on a lu ce matin. Parce que Dieu voulait se faire connaître comme étant le Dieu unique à travers ce prophète Balaam. Il voulait se faire connaître à Balak et aux autres comme étant le Dieu qui bénit même un peuple comme Israël. Dieu voulait faire quelque chose, connaître quelque chose de lui-même sur sa grâce, sur le fait que sa faveur était sur son peuple et que cette faveur était non méritée, mais que cette faveur, elle était bien réelle et vraiment inchangeable. Parce que même s'il voulait faire changer les sentiments du prophète, ça ne marchait pas. Et il y a aussi une saveur ici missionnaire, évangélistique, même apologétique, parce que tout ça, ça se fait à travers un prophète qui n'est même pas d'origine juive. Donc, il y a vraiment ici un aspect missionnaire. Pour nous, qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'œuvre de la grâce de Dieu qu'il fait au milieu de nous autres, aussi réelle, authentique, puissante puisse-t-elle être, n'est pas juste pour nous autres en vase clos. Nul ne vit pour lui-même, ni même ne meurt pour lui-même. Mais Dieu a un but missionnaire, rédempteur, apologétique. Il y a quelque chose au-delà de juste les quatre murs de cette église. Il veut briser cette pensée piétiste de juste vivre à l'intérieur des murs de l'église, puis on brille à l'intérieur, puis dehors, ben, les gens qui s'arrangent. Non! Dieu fait ça pour faire connaître Christ. Il nous le fait connaître afin qu'on le fasse connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça toute l'idée des missions. Et c'est ça ici que Dieu voulait faire. Il se faisait connaître, non seulement à Balak, à Balaam, mais il voulait se faire connaître comme étant ce Dieu unique, saint, incomparable. Et pour nous, ce que j'aimerais qu'on considère, c'est deux éléments fondamentaux de la mission de l'Église. Nous sommes une Église en mission. Le titre du message, c'est « Dieu révèle la mission de l'Église ». Et j'aimerais qu'on commence dans 1 Jean chapitre 5. Venez avec moi. Là, on va quitter le livre des nombres. On ne va pas y retourner. On va y aller de façon thématique avec les deux points du message. C'était pour apprêter qu'on voyait l'histoire du livre des nombres. Mais j'aimerais qu'on voit deux aspects fondamentaux de la mission de l'Église. D'abord, on voit dans 1 Jean, la mission de l'Église, elle est salvatrice. La mission de l'Église est salvatrice. On va juste lire les versets, en fait, les deux derniers versets de 1 Jean, donc chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Une fin assez spéciale. Jean, je veux dire, il est bien unique comme écrivain biblique. C'est comme ça qu'il finit son premier épître. Avant de parler un peu plus ici de ce que je veux vous partager par rapport à la mission salvatrice de l'Église, vous savez que Jésus-Christ, son nom, tu sais, quand on parle de salut en Jésus-Christ, Jésus, son nom n'a pas été donné au hasard. Prophétiquement, lorsque l'ange a donné le nom que Jésus devait avoir, il a dit, tu vas lui donner le nom Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Jésus, ça veut dire sauveur, Yehoshua. Jésus révèle, le nom Jésus révèle la mission de Jésus, c'est de sauver, d'amener la libération spirituelle à ceux qui sont dans l'esclavage. Et cette libération, elle est présente, elle est à l'avant-plan dans une église locale comme la nôtre, qui est vivante. Qui est vivante. Et là, je veux développer ça. Qu'est-ce que ça veut dire que la mission d'église est salvatrice? Jésus est venu comme étant la vérité dans ce monde. Jésus nous sauve du faux. Jésus nous sauve de l'idolâtrie. Jésus nous sauve du sans-vie. Nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Puis il nous a rendu la vie. Et ce qui arrive, c'est que quand on voit c'est quoi l'idolâtrie, c'est substitué par quelque chose que ce soit ce que Jésus-Christ est venu donner. Jésus est l'authentique. Par exemple, on apprend dans 1 Jean que Jésus est la vraie lumière, au verset 9. Il est la vraie lumière qui est venue dans le monde. Il est le vrai pain. Non, pas dans 1 Jean, c'était dans Jean 1:9, Jésus est la vraie lumière. Dans Jean chapitre 6, verset 32, il est le vrai pain descendu du ciel. Les pères ont mangé la manne, mais ça, c'était temporaire. Jésus est le pain de vie. Jésus est la vraie vigne. Et la vraie vigne duquel, quand on est attaché à lui, il est notre vie. Et Jésus est la vérité même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est l'original. Amen. Vous cherchez c'est quoi le vrai? Jésus, c'est lui le vrai. Tout le reste, c'est une copie. Il est l'authentique. Le reste, c'est que de l'imitation. Voilà pourquoi les chrétiens sont les seuls. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les chrétiens sont les seuls qui connaissent et qui vivent dans la réalité. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça l'idée de la mission salvatrice de l'Église. Pourquoi? Parce que le mensonge rend esclave, la vérité libère. La mission salvatrice de l'Église, c'est de nous sauver des fausses délivrances, d'une délivrance qui n'est pas réelle. Et je vous donne des exemples. Le monde se vante d'être dans la lumière. On a eu le siècle des lumières, puis en anglais, on dit « enlightenment ». Mais les chrétiens, ils vivent dans la vraie lumière parce que Dieu est lumière. Le monde parle d'amour, mais ne connaît rien du vrai amour parce que c'est seulement les chrétiens qui l'expérimentent parce qu'ils connaissent celui qui est amour.
Amour.
Et le monde encore va se vanter de connaître toutes sortes de choses, d'avoir de la sagesse. Et Salomon en parle dans le livre de l'Ecclésiaste, mais les chrétiens, encore là, sont dans une catégorie complètement à part. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est leur sagesse. Et ils connaissent celui qui est la vérité en personne, qui incarne la vérité incarnée. Voilà, je pense, qu'il nous amène un regard bien unique sur un verset qui a été cité encore ce matin dans la prière et la semaine dernière aussi. Connaissez-vous psaume 115, verset 8? Il leur ressemble tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles, les idoles de ce monde, les imitations, tout ce qui n'est pas de l'authentique. Quand on se confie là-dedans, on finit par lui ressembler. C'est ça que le monde est en train de vivre. Et le monde, qu'est-ce qu'ils disent dans le fond? C'est pas important ce que tu crois, l'important c'est que tu sois sincère. Vous avez déjà entendu ça? On l'entend souvent, n'est-ce pas? Mais c'est complètement faux. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Parce que le fondement et la philosophie de ça, c'est l'idolâtrie. Oh, peu importe ce que tu crois, c'est que tu sois sincère. Si tu crois dans un idole, tu crois dans ce qui n'est pas dans le vrai, l'original, t'es perdu, tu t'égares. Et il y a mille et une façons, autant évidentes que subtiles, par lesquelles Satan contrôle comme ça le monde, avec la peur et tout ça, et les chrétiens. Ça dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous de ce qui n'est pas authentique, de ce qui n'est pas le vrai. Hein, au verset 20, le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quel verset extraordinaire sur la divinité de Christ. Mais il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Quand on comprend ça, on comprend mieux à quel point ce que nous vivons en ce moment, depuis un an et demi environ, c'est pernicieux. Parce que Satan s'attaque directement, c'est une attaque frontale, à la réalité de la mission de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Et étant chrétien, nous connaissons l'ultime réalité. Dieu est l'ultime réalité. On ne peut pas rien comprendre de ce monde, droitement et véritablement, si on ne le comprend pas à la lumière de Dieu. C'est pour ça que le siècle des lumières, ce n'était pas de la lumière, c'était de la fausse lumière. Puis j'ai des petites nouvelles pour vous autres, c'est pas fini. Les gens qui appellent ce qu'ils appellent la lumière et tout ça, c'est de l'égarement. Pourquoi? Parce que tant que ce n'est pas en lien à la lumière du Dieu vivant, le seul vrai Dieu, c'est de la tromperie. Et Ce à quoi on est face avec cette attaque à la mission salvatrice de l'Église, c'est une l'Église a été réduite à un rôle, une philosophie réductionniste. C'est-à-dire que nous qui sommes le temple et la colonne de la vérité, on s'est fait réduire en se faisant étiqueter de non-essentiel, alors que c'est la seule chose qui est essentielle dans ce monde. Et ça, c'est un mensonge. Puis les chrétiens, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans parce qu'on cède au mensonge. C'est de l'idolâtrie, que ce soit sous la forme de n'importe quel... Je veux dire, Satan a attaqué la nature même de l'Église, de sa mission et donc de son chef. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune part à prendre à ça. On doit les condamner en n'ayant aucune part avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, on doit les condamner. Ça m'amène à la deuxième mission fondamentale de l'Église. Non seulement l'Église a une mission salvatrice, elle qui amène la vérité qui sauve, la vérité qui sauve du mensonge qui nous rend esclaves. Cette même Église a aussi une mission restauratrice, et j'aimerais qu'on aille voir ça dans Éphésiens chapitre 4. La mission restauratrice de l'Église, Éphésiens chapitre 4, juste deux versets encore, dans Éphésiens chapitre 4. Des versets que vous connaissiez probablement vous connaissez le verset 15 par cœur, je ne sais pas pour verset 16. Des versets puissants. Éphésiens chapitre 4, verset 15. « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » La mission restauratrice de l'Église. On voit ça beaucoup dans le livre d'Éphésiens. Et j'aimerais juste dire en commençant que l'influence spirituelle de l'Église dans une société comme la nôtre n'est pas à négliger. Lorsque nous nous tenons simplement pour ce qui est vrai, on n'a pas besoin d'aller faire comme le monde fait, essayer de faire des manifestations, tout ça, mais juste être ce que nous sommes. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, il est notre chef, et ça, c'est non négociable. C'est de ça que Dieu s'est servi à travers toute l'histoire pour exercer son influence dans le monde dans lequel on vit. Et ce n'est pas à négliger ni à ignorer. Parce que l'Église est un lieu unique, saint, mis à part pour Dieu pour opérer une mission restauratrice. Il restaure des vies. Cette image ici de la restauration, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Puis ensuite, il y a toute cette image de un assemblage qui tire son accroissement. C'est ça l'œuvre de l'Église. Dieu restaure à travers l'Église. Et ça arrive autant dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Lorsqu'une Église a la vie de Jésus-Christ qui se manifeste en elle, ça paraît en dehors. Parce que les chrétiens qui en font partie vont être le sel de la terre, la lumière du monde. L'Église de Jésus-Christ a un rôle merveilleux et unique de restauration dans l'Église et en dehors de l'Église parce qu'elle est la seule qui est dans la vérité, comme je disais. Elle est la seule qui est en contact avec l'ultime réalité. Le reste, ce n'est que mensonge et idolâtrie. Pensez-y, là. C'est très dogmatique ce que je dis là. C'est vraiment pas politically correct, là. Mais c'est la vérité. Pensez-y, les philosophies humaines, les religions vaines, c'est rien, c'est du vent. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes en contact avec celui qui est l'ultime réalité, qui libère, d'où l'importance de tout voir et de tout vivre à la lumière de celui qui nous a libérés. Savez-vous, il y a une grande vérité que l'ensemble des chrétiens, de toute dénomination, de tout milieu, on a manqué, puis qui est tellement précieux, c'est incroyable qu'on l'ait manqué, c'est notre union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et pourtant, quand on regarde dans le grand livre doctrinal et tellement précieux de Romains, C'est au cœur même du livre de Romains. Dans Romains chapitre 6, verset 11, ça dit « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. » Mes amis, juste ça, je vous encourage à juste ce verset-là, de méditer toute la semaine là-dessus, puis de méditer sur le chapitre 6. C'est la clé de la vie chrétienne. C'est la grande vérité du Nouveau Testament. C'est notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes maintenant libérés du péché parce qu'on est mort à ce péché avec Christ, avec lui sur la croix, et maintenant on est vivant avec lui, on peut marcher en nouveauté de vie. Et tout ça, c'est ce qui nous permet de devenir des instruments dans les mains du Dieu vivant. Écoutez ce que ça dit dans Romains 6, 13. Ben, je vais lire verset 12 parce que je viens vous lire 11. 12, ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Voyez-vous, à cause que je vis à la lumière de ce que je suis en Dieu, je vis maintenant en réponse à ça. Je vis comme étant vivant de mort que j'étais et j'offre à Dieu mes membres comme des instruments de justice.
Amen.
Quelle grande vérité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Le Seigneur a travaillé avec un verset spécialement, un passage cette semaine, dans Matthieu 7, sermon sur la montagne, vers la fin. Vous savez, sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, 6, 7. Au début du chapitre 7, Jésus, vous connaissez le passage, où est-ce qu'il dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil à toi qui a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Vous savez, lorsqu'on comprend comme il faut ce que nous sommes en Jésus-Christ, ça change toute notre relation avec les autres. Et lorsqu'on comprend qu'on est mort au péché et vivant pour Dieu, lorsque notre union avec Christ a saisi notre cœur, on ne voit plus les autres de la même manière. Parce que si je vois que je suis accepté dans le bien-aimé, que je suis maintenant une nouvelle créature, que mon identité, ce n'est plus mon péché, ce n'est plus mon passé, mais c'est ce que Christ a fait de moi, maintenant, je peux voir les yeux, les autres avec des yeux qui voient que Dieu peut faire la même affaire avec eux autres s'il n'est pas déjà en train de le faire. Je vois les personnes à travers les yeux de l'œuvre de Christ qui est toute puissance et si je l'expérimente, je crois que Dieu peut le faire pour d'autres, n'est-ce pas? Et j'amène ça ici parce qu'il y a un point important qu'il faut qu'on voit. Vous savez, dans notre nature pécheresse, on a cette tendance, tout le monde ici, la même, on aime ça trouver un réconfort à trouver les autres pires que nous autres. C'est ça ici dans... Non, mais c'est vrai.
Ah, ouais.
Ah, ma femme, là, elle, quand elle va régler son problème, là, ça va aller pas mal mieux. Ah, mes enfants sont tellement problématiques, quand eux, ils vont s'être repentis, là, moi, ça va être plus facile pour moi. On rit, mais c'est pas drôle, parce qu'on pense de même. C'est dans notre nature pécheresse. Mais là où ça devient pernicieux, sneaky, c'est que c'est pas tout avec les mêmes péchés. Moi, je peux regarder un frère et dire « Ah, lui, il a de la misère avec ça. Il a donc bien de la misère. » Moi, j'ai pas de misère avec ça. Mais lui, il peut s'en virer de bord et dire « Ouais, mais toi, t'as de même de la misère avec ça. » Moi, j'ai pas de misère avec ça. Fait qu'on peut commencer à tout se pointer du bord et tout voir les points des yeux de tout le monde puis dire « Ah, moi, j'ai pas ce problème-là. » Ouais, mais on est tout là. Comprenez-vous? Ça va nulle part. Et surtout, il faut comprendre que appelons un chat, c'est vivre du mensonge. C'est pas vivre dans la mission restauratrice de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est pas basé sur le roc de la vérité de la parole. Parce que c'est vivre en croyant que les autres sont pires que moi. On trouve un réconfort à essayer de se convaincre de ça. Mais savez-vous, quand on est face au Dieu trois fois saint, on se rend compte que, oh mon ami, juste que moi je puisse me tenir là, puis qu'on voit notre péché, parce que regardez des gens qui sont arrivés face à Dieu, comme Ésaïe, il n'a pas dit « Oh, donc, je suis donc ben bon », puis non, il a dit « Malheur à moi ». Pourquoi? Parce qu'il a été convaincu de son propre péché face à un Dieu trois fois saint. On voit notre péché. Et pensez-y bien, c'est pas possible d'être dans le mensonge, dans l'hypocrisie, puis de vivre la restauration. La restauration, la mission restauratrice de l'Église se vit dans la vérité. Où est-ce que, humblement, on reconnaît qui on est et qui les autres sont? Et ça, ça a été vécu à travers l'histoire. Connaissez le comte Zinzendorf? Connaissez les Moraves? C'est quoi, là, on a un cantique qu'on chante, il est vraiment beau. C'est écrit en haut dans « Célébrons Dieu », là. Ça dit « Mélodie Morave » ou quelque chose de même. En tout cas, c'est un des héritages qu'on a du réveil des Moraves, là, en Moravie. C'était, ils ont des beaux cantiques et tout ça. Mais ce qui est arrivé à l'époque, bon, pour faire une histoire courte, il y avait beaucoup de chrétiens comme ça, de différents arrière-plans chrétiens, un peu comme nous, qui se sont trouvés tout le monde ensemble, puis ils sont tous mis à chicaner. Ah, là, puis tu sais, bon. Fait que le comte de Zinzendorf, qui était un comte, donc il avait une grande propriété, puis tout ça, qu'ils avaient sur sa propriété, il les a invités à la prière, à vraiment chercher Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu a saisi leur cœur, que Dieu s'est pointé, savez-vous ce qui est arrivé? Tout le monde s'est mis à voir leur péché, puis à être convaincu, eux, devant Dieu. C'est pas qu'ils trouvaient plus que les autres c'était important, c'est qu'ils voyaient comment eux c'était grave, leur péché. Et savez quoi, c'est ça notre plus grand besoin. Jésus, quand il a dit, tu sais, avec le passage, où est-ce que quand il dit, si vous, comme père, vous donnez du pain, tu sais, vous n'allez pas donner, s'il demande un œuf, vous n'allez pas donner un scorpion, s'il donne, ok? Il dit, à combien de plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est quoi? C'est notre plus grand besoin, c'est Dieu lui-même, Dieu le Saint-Esprit qui se pointe au milieu de nous autres. Parce que là, on est face à ce que nous sommes réellement. Et mes amis, il y a quelque chose là-dedans de grand, de précieux, mais de coûteux. Vous savez, il y a un prix à aimer. Christ est venu, Dieu a tant aimé le monde. Mais le prix, c'était qu'il était un homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Tous les jours, il souffrait à cause du péché, de l'égoïsme et de toutes ces choses-là. Et là, il y a un point que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin. Vous savez, on prie, Dieu, on veut une église vivante. Dieu, on veut une église où est-ce que la main de Dieu est là. Vous savez, des fois, on prie des choses et on ne se rend pas compte nécessairement de la conséquence. Une église vivante, c'est une église dérangeante. C'est pas toujours confortable. Pourquoi? Parce que c'est vivant. C'est comme si je prends une poupée, c'est facile à garder. Puis, c'est vrai, Lydia aussi est facile à garder, là. Mais c'est pas comme une poupée, quand même. Un enfant, c'est vivant. OK? Ça veut dire que c'est plus dérangeant, n'est-ce pas? Tu peux pas juste le mettre dans un coin en décoration, non? Et la bougeotte, puis des fois, il pleure, il arrive ci, il arrive ça, il prend des affaires dans les tiroirs. Pas mal. Mais qu'est-ce qui arrive? Il nous sort de notre zone de confort. Il nous sort de ce qui est connu. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est Dieu qui nous force à être dans une position de dépendance. Et ça, c'est bon. Il faut qu'on voit le bon là-dedans. Quand une église est vivante, c'est parce qu'on apprend à dépendre de lui. Pensez-y, là. Quand on est sur le pilote automatique, peu importe la façon dont on fait l'église, si on fait tout parce qu'on sait comment le faire, puis ça roule de même, puis c'est comme ça, est-ce qu'on a besoin de dépendre de Dieu? Non, on peut tout apprendre à le faire sur le pilote automatique. Mais quand la vie de Christ commence à travailler, puis que Dieu fait des choses, puis qu'il amène des gens différents, des gens dérangeants, des gens qui ne sont pas dans notre zone de confort, là, il faut qu'on dépende de Dieu. Parce que là, on a des nouveaux problèmes. Puis on a des nouveaux défis. Mais je vous pose la question.
Voyez-vous les gens comme des problèmes ou comme des défis? Comme des projets en construction.
Ouais.
Marie, est-ce que tu vois ta femme comme un problème? Femme, est-ce que tu vois ton mari comme un... Non, mais les parents, est-ce qu'on voit nos enfants comme des problèmes? Vous savez, c'est pas le fun d'être du côté de celui qui est vu comme le problème. Tu sais, tout ce que je suis, c'est un problème. Mais pensez-y, quand on a la philosophie de Matthieu 7, puis qu'on voit la peur, disant, ah, t'es un problème à régler. Non, quand on apprend à voir à travers les yeux de la mission restauratrice de l'Église, on voit, oui, il y a un problème. Puis on n'excuse pas les problèmes, puis on n'excuse pas le péché, mais on voit que c'est un projet inachevé en construction. Tout comme nous, d'ailleurs. Ça change absolument tout.
Et ça, mes amis, il y a une grande vérité là-dedans parce que c'est ça que Dieu fait pour opérer sa mission rédemptrice dans une église comme la nôtre. Et donc, on veut professer la vérité dans l'amour. Cette église, on ne veut jamais excuser le péché, le compromis, parce qu'on a vu ce que ça donnait avec Balaam. C'est la voie de la destruction, on l'a lu, hein? Il s'en allait, Dieu a dit, tu t'en vas sur une voie de destruction. Et on ne veut pas aller sur cette voie-là. Mais aussi, on comprend que, étant tous ici des projets non parvenus, des projets inachevés, lorsqu'on voit que les autres sont dans l'erreur et tout ça, ou qu'il y a quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, nos conversations, notre prière, notre pensée doit aller dans le sens, dans l'attitude, dans la disposition spirituelle de Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et que laissez ces sentiments, il n'a pas regardé la gloire qu'il avait comme une proie arrachée. Il a accepté de devenir le plus bas qu'il n'y a pas et de mourir de la mort la plus honteuse, de mourir de la mort même de la croix. Et Dieu s'est servi de ça pour l'élever au-dessus de tout autre nom. Et c'est comme ça que Dieu édifie avec des gens qui s'abaissent. L'œuvre d'édification, de restauration d'une église, ça se passe quand tout le monde est bas. Quand tout le monde, dans l'humilité, on accepte d'être enseigné de Dieu. C'est pas toujours agréable. Tu sais, des fois, on pense, un réveil, c'est le fun, puis on veut un réveil. Il y a un prix à payer pour tout. Mais ça revient à ce qu'on disait au tout début. Où sont nos yeux? Comme Balaam sur la rémunération immédiate, ou comme Moïse sur la rémunération qui était beaucoup plus loin, il a accepté de porter l'opprobre de Christ. Il a souffert avec le peuple de Dieu, mais il avait les yeux sur Christ, qui était sa rémunération. Voici à quoi je veux tout amener ça ce matin. Vous savez, nous sommes une église en mission, dans une guerre spirituelle féroce de longue durée. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas avec les moyens de la persuasion humaine et les moyens que les hommes prennent, mais nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est comme ça qu'on combat avec les armes, qui sont avec la prière, avec la parole, avec la vérité, dans l'amour, dans notre communion fraternelle. C'est comme ça qu'on renverse les forteresses. Et c'est comme ça qu'on peut faire des intrusions fatales dans le terrain de l'ennemi. Et vu qu'on considère la portée missionnaire de notre église, vous savez, on fait ça ici, puis les gens qui sont représentés par notre famille missionnaire sont une extension de l'église pour faire aussi cette intrusion dans le terrain de l'ennemi avec Christ, la vérité qui a franchi. C'est l'extension du ministère de notre église pour utiliser notre église et ceux qu'on soutient comme ça pour la mission de salut, de restauration de l'Église de Jésus-Christ.
Amen.
Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit. Vous savez, on considère qu'est-ce qu'on peut faire pour l'œuvre missionnaire et on parle au niveau de ce que le Seigneur nous met à cœur pour donner régulièrement. Mais n'oublions pas, on combat avec des armes puissantes en Dieu. La prière pour l'œuvre missionnaire, pour les missionnaires, qu'on lit leur l'aide de prière, puis qu'on prie pour eux autres. C'est comme ça qu'on va faire des avancées dans le domaine des missions. Et toutes les armes de Dieu, lorsqu'on en est revêtu, c'est là, dans le territoire hostile que nous sommes, que nous marchons dans la victoire que Christ a déjà remportée pour nous autres. Il faut s'emparer de cette victoire par la foi. Et mon appel pour vous qui êtes ici, un enfant de Dieu, sauter à pieds joints là-dedans. C'est notre mission. Pourquoi on est ici sur terre? C'est parce qu'on est dans cette mission de Christ. On a le privilège d'être embarqué dedans. Cette mission de salut, de restauration, et c'est extraordinaire.
Amen.
Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous n'avez pas encore répondu par la foi, accepté cette mission pour laquelle l'Église est encore sur terre, de sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes. On ne peut pas se sauver par la famille dans laquelle on est né, par nos bonnes œuvres, ni rien de ça. Mais seulement par Jésus-Christ. Confiez-vous aujourd'hui en lui pour le salut de votre âme. Je vais donner tantôt des explications brièvement pendant les annonces sur les offrandes promises par la foi. C'est technique un peu, juste pour dire avec la carte comment ça marche. C'est simple. Mais je veux juste vous dire, il faut voir au-delà de juste de l'argent dans l'offrande. C'est une mission à laquelle on est appelé. Et cette mission, elle a une valeur éternelle. Et donc, que Dieu puisse nous diriger, chacun d'entre nous, alors qu'on le cherche, parce que c'est une mission extraordinaire. Une mission qui est le seul espoir de ce monde. L'espoir de ce monde, ce n'est pas la politique, ce n'est pas les finances, c'est Jésus-Christ.
Amen.
C'est lui seul. Seigneur, merci pour le fait que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. S'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas encore, en esprit, en vérité, réellement, oh Seigneur, que tu puisses continuer cette œuvre de conviction. Si cette personne est ici, c'est parce que déjà tu l'as amené. Et déjà, Seigneur, tu fais une œuvre pour l'amener à Christ. On prie que cette personne réponde par la foi à ce que tu es en train de faire. On te prie pour ces personnes qu'on aime qui ne te connaissent pas encore. Oh Seigneur, que tu les attires au pied de la croix. Et pour nous qui sommes tes enfants, on veut garder les yeux sur la rémunération. Ça se peut qu'on perde des conforts, des choses qu'on a dans cette vie. Ça se peut qu'on soit hors de notre zone de confort avec des relations, hors de cette église, dans cette église qui n'est pas ce qu'on aimerait. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a un trésor de communion de tes souffrances, d'accepter de porter les fardeaux des autres, de souffrir pour le bien et le péché des autres. C'est ce à quoi tu nous appelles, comme Christ l'a fait quand il était sur terre, homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Seigneur, chasse cet esprit de peur de souffrir, de peur de ne pas avoir les choses comme on les aime, comme on les voudrait, mais par la foi, d'accepter que tu nous rencontres au-delà de nos peurs, tu nous rencontres au-delà de notre zone de confort. C'est un rendez-vous tellement merveilleux. Seigneur, que comme Paul, on voit tout le reste comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, notre Sauveur. Ah, Seigneur, que tu sois plus précieux que tout. Que ça se montre aussi dans l'implication missionnaire de cette Église, à tous les niveaux. Qu'on soit une Église qui déborde de ta vie, qui veut la partager, qui de tout cœur, dans la joie, déborde du message rédempteur qui est en Christ. Ah, Seigneur, merci pour ta bonté, ta grâce envers nous. Dirige maintenant ton peuple, alors qu'il va répondre à ce que tu nous as dit ce matin, et que tu sois glorifié, Seigneur, au milieu de nous autres. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez prier,